Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous en sommes à l'article 559 du catéchisme, et donc toujours dans cette préparation à la Passion, ce temps public de Jésus, l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Dans cette entrée messianique, le catéchisme nous rappelle, nous redonne un mot que nous utilisons dans la liturgie ordinairement, « Hosanna ». Hosanna, peut-être oublions-nous ce qu'est ce Hosanna. Alors Hosanna, on le trouve ça dans le Sanctus, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Je me souviens donc dans mon travail un peu sur la liturgie, où on voit dans l'apparition de ce Sanctus, comme c'était un cri du peuple dans la liturgie, je ne sais plus à quel, vers le 7e siècle, où c'est le peuple qui introduit, de façon spontanée en tout cas, ça vient du peuple ce cri, de « Saint le Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ». Et on n'en est pas surpris, quand le catéchisme le rappelle bien, « Hosanna » veut dire « Sauve donc, sauve-nous ». Je trouve extraordinaire de se souvenir qu'il y a dans notre célébration de la messe, mais il y a dans notre vie de foi, notre vie chrétienne, l'exigence de redire « Sauve-nous ». Est-ce que je crois que le salut vient du Christ et comment va-t-il venir du Christ? Finalement, quelle est la réponse du Christ à cet appel du peuple croyant que nous sommes « Sauve-nous ».
Oui, Jésus met haut la barre puisque il répète le texte du Lévitique, ses paroles de Dieu, et lui-même est la parole de Dieu. Soyez saints comme Dieu est saint. Et Jésus le répète sous différentes formes dans les évangiles. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ça nous semble impossible. Et une fois que l'on comprend que l'exigence est très grande, il faut que quelqu'un nous tire au niveau où il veut nous placer. Un peu comme quelqu'un qui est premier de cordée, tire la corde pour aider ceux qui sont tout en bas dans la vallée et qui n'arrivent pas à monter. Il faut qu'il y ait un premier de cordée. Et Jésus montre bien que cette sainteté est possible par lui, à cause de lui. Même Pierre, coulant dans les eaux, au moment où il tente de suivre Jésus et de marcher à sa suite, c'est trop grand, c'est trop fort. Et qu'est-ce que crie Pierre ? Sozon me, sauve-moi. Et ce cri de Pierre, c'est le cri de tout le peuple. Le peuple comprend que quand Jésus rentre à Jérusalem, il a besoin d'un sauveur. La possibilité d'accomplir la loi est trop haute pour monter à cette loi de sainteté que Dieu a inscrit dans la loi juive, dans la loi de l'Ancien Testament, et il faut quelqu'un qui puisse faire passer de la condition pécheresse à la condition de sainteté. Et donc c'est très beau dans le Sanctus, c'est qu'on associe le trois fois saint du Seigneur, comme dans Isaïe chapitre 6, saint, saint, saint est le Seigneur, c'est le triple kadosh d'Isaïe qu'il a entendu, que les anges qu'on chante autour du trône de la gloire de Dieu, et le fait qu'on ne peut pas être dans le Sanctus sans un sauveur, sans être pris par la main, par celui à qui on crie « Hosanna au plus haut des cieux, sauve-nous ». Et c'est d'ailleurs le nom de Jésus. Jésus signifie « Dieu sauve, Yeshua », c'est la même racine que « Hosanna », sauf qu'il y a « Yé » devant qui rappelle « Yah », le nom de Dieu. Dieu sauve, et c'était déjà se contenter différents personnages bibliques. Josué, c'est la même racine, Ishaïa, c'est la même racine, Dieu sauve, et enfin, ces tentatives n'étaient qu'éphémères, ne duraient que la durée d'un prophète, la durée d'un meneur d'hommes, d'un guide comme Josué. Josué est mort, Isaïe est mort, mais Jésus ne meurt plus. Jésus, ressuscité d'entre les morts, ne meurt plus. Et c'est une espérance immense que ce salut est possible que ce salut est définitif. Mais c'est un salut qui est réalisé dans l'humilité, une fois de plus, puisque on précise bien que Jésus entre dans sa ville monté sur un ânon, réalisant la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Et Jésus a vraiment voulu réaliser cela. Il a demandé aux apôtres, d'une manière très précise dans saint Marc, de faire venir cet ânon en disant « le Seigneur en a besoin ». Vous vous souvenez de ce passage très beau. Et l'ânon, finalement, est recouvert de manteau et Jésus rentre dans la ville, non pas comme un grand seigneur, mais monté sur le petit d'une ânesse, accomplissant ainsi l'oracle de Zacharie. C'est très touchant, c'est la venue dans l'humilité de Jésus comme sauveur pour affronter sa passion, pour montrer qu'il accepte finalement, dans cette petitesse, d'être ainsi, comme le décrira Isaïe au chapitre 52-53, l'homme de douleur, l'homme qui accepte finalement la figure pour sauver les enfants de Dieu, les pauvres de Dieu. Et le peuple ne se trompe pas, il l'acclame comme les anges, dit le catéchisme, annonçaient aux bergers la venue d'un sauveur. Et béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, ils reprennent le psaume 119, verset 26, en rappelant que Dieu nous bénit par ce Sauveur, nous fait rentrer dans la Jérusalem céleste. Du coup, Jérusalem n'a plus seulement une dimension terrestre, et saint Paul avait bien raison de dire que la Jérusalem terrestre n'était que figure de la Jérusalem céleste. Jésus veut nous entraîner beaucoup plus haut que la Jérusalem terrestre, et la Jérusalem terrestre va perdre d'une certaine manière de son éclat par rapport à notre cité qui est dans les cieux.
Oui. Hosanna. Donc cette entrée de Jésus à Jérusalem, donc, est pour nous la marque de la réponse du Sauveur, quand on l'appelle. Quelle est notre capacité de reconnaître ce besoin du salut, c'est une question de toutes les époques, en réalité.
C'est une question de toutes les époques, et c'est vrai qu'on peut entretenir ce foyer en récitant, par exemple, comme font nos frères orientaux, la prière de Jésus. Dans la prière de Jésus, on reprend la parole de celui qui était l'aveugle de Jéricho, « Seigneur Jésus, fils de David, prends pitié de moi, pécheur. » Eh bien, en disant cela, on se situe comme pécheur et on comprend qu'on a besoin d'un sauveur par rapport au péché dans lequel on est prisonnier, puisque le péché rend l'homme prisonnier de celui-ci. Et on ne peut pas se libérer par soi-même sans quelqu'un qui vient nous tirer de notre gang, de notre péché. Seigneur Jésus, fils du roi David, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur, disent les orientaux dans cette prière dite de Jésus. Un jour, une jeune me disait, mais est-ce que vous connaissez une prière adressée à Jésus ? Et j'ai eu aussitôt l'idée de lui transmettre la prière de Jésus. Seigneur Jésus, fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. C'est ça la prière qui forge le cœur dans lequel on a besoin d'un sauveur. Parce que si je ne dis pas que je suis pécheur, eh ben, je n'ai plus besoin d'un sauveur. Ça devient une hypothèse inutile si je ne reconnais pas que je suis pécheur. D'où l'importance de sans cesse revenir sur cet état et proposer dans l'Église les confessions régulières pour que cette considération puisse se réaliser. Parce que c'est sûr que le baptême nous sauve, nous passons de la mort à la vie, mais il faut entretenir cette sève que nous avons reçue le jour de notre baptême. Les semences qui ont été mises dans notre cœur méritent un accroissement de la grâce. Et le sacrement de réconciliation permet de redémarrer cette volonté d'accroissement et de ne pas se contenter seulement de la communion, qui, certainement, la communion eucharistique accroît la grâce, mais sur un fond bon. Et il faut que ce fond bon soit régulièrement remis à jour, restauré, pour que cette multiplication de la grâce advienne. Et donc, il y a toute une catéchèse dans le salut sacramentel. Les sacrements sont l'œuvre de salut dans nos vies. Jésus les utilise pour passer concrètement de notre état de pécheur à notre état de sauvé.
Oui. Quand je prépare un mariage ou un baptême, et donc que je pose la question, pour vous, qu'est-ce qu'un sacrement ? Alors, souvent, va venir la réponse, c'est quelque chose de sacré. Alors, quand on a dit ça, on a dit beaucoup et rien du tout, oui, d'une certaine façon.
C'est sûr.
C'est la compréhension du sacrement va être aussi parfois, voilà, c'est une étape dans la vie chrétienne. Il y a le côté, le côté, j'allais dire, un peu initiatique, les étapes, qui, toutes ces choses-là portent de quelque chose de vrai. Mais les chrétiens eux-mêmes ont des fois un peu de mal à reconnaître que le sacrement, c'est un moyen par lequel Dieu fait une œuvre de salut pour nous, et donc que nous y allons pas parce que c'est une étape de tradition. Tant mieux si on a au moins intégré ça, mais c'est plus qu'une étape de tradition, c'est bien c'est le cri de l'homme qui demande à être sauvé. Et peut-être notre catéchèse, notre mission aujourd'hui est de rappeler que le mot salut est peut-être difficile, en même temps il est peut-être plus simple qu'on ne le pense, pourvu qu'on ait un cœur de pauvre devant celui dont par qui on se laisse tirer, tu disais, par le premier de cordée.
Et oui, l'Église est sacrement de salut, et c'est ce que le Concile a essayé de redire de multiples manières dans Lumen Gentium. Lisons Lumen Gentium. Merci.
Très bien, c'est un beau programme. Merci, frère Édouard.